Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, c'est bientôt la rentrée. Du coup, je me suis dit qu'on allait prolonger l'ambiance vacances d'été avec un roman érotique qui s'appelle « Le journal d'Elsa Linux ». C'est publié aux éditions La Musardine et c'est vraiment une parodie du journal de Bridget Jones, mais version du coup un petit peu plus érotique et chaude. Alors Elsa Linux, comme Bridget Jones, elle va avoir 30 ans, elle cherche l'amour, le prince charmant, mais elle ne le trouve pas parce que tous les mecs qu'elle croise, ça va jamais. Et elle a une vie assez chaotique, c'est un peu le bordel, sauf que elle ne se précipite pas sur les barres chocolatées, elle enchaîne les plans cul, les amants, etc. etc. Elle baise avec son directeur de collection, Raoul, mais qui ne passe que pour la sodomiser. Alors elle se pose des questions. Oh là là. Du coup, heureusement, elle a ses copines avec qui en parler, mais avec qui elle se tire aussi la bourre. Voilà. En fait, Elsa Linux est un petit peu crétine, hein, c'est un petit peu une tête de linotte qui n'a rien dans la tête, qui est toujours à découvert, qui son beau-frère, c'est son banquier, qui lui prolonge ses découverts en échange de photos carrément porn. Bref, c'est une horreur pour tout les féministes, mais c'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est pas un livre qui révolutionne la littérature, c'est pas non plus un livre qui révolutionne le genre érotique, mais franchement, j'ai passé un bon moment en le lisant, c'est comme je vous disais, on prolonge les vacances, attention, on s'imagine à la plage, en train de se faire dorer au soleil avec le bruit de la mer derrière nous, pendant qu'on lit les aventures d'Elsa Linux. Alors, l'extrait que je vais vous lire, il n'y a pas vraiment de chapitre, c'est le dimanche 19 septembre. À chaque fois, en fait, c'est vraiment écrit comme un journal, donc il y a le jour et après les horaires. Et Elsa Linux a un boss dans une boîte de pub, elle a un client, il fallait qu'elle maintienne un gros contrat, c'est Kevin WC. Sa spécialité, c'est de vendre des WC portatifs, notamment en Arabie Saoudite et dans le Sahel. Révolutionnaire, il est milliardaire. Ça fait plusieurs fois qu'elle le voit. Il se passe rien, il la baise pas, tout ça. Il est gentil. Elle se dit, oh, peut-être que c'est lui l'âme de ma vie. Et en même temps, elle a un repas de famille où on découvre les parents d'Elsa Linux, qui sont aussi des bonnes petites caricatures à eux tout seuls. Je vous en dis pas plus. La soirée avec Kevin, Kevin WC, a été un petit peu particulière. C'est parti, un extrait du journal d'Elsa Linux. C'est publié à la Musardine et il n'y a pas d'auteur. C'est un auteur anonyme qui fait croire que c'est... En fait, du coup, c'est vraiment fait pour qu'on croie que c'est directement le journal intime d'Elsa Linux. Dimanche 19 septembre, dans le coma et en famille. 10 heures. Sors du coma. Ça ne s'est pas passé du tout comme je croyais hier soir, mais... je suis trop fatiguée pour le raconter. Tout à l'heure. 11 heures. Trop claquée pour conduire et puis me taper les encombrements en rentrant, merci bien. Encore le métro, donc. J'ai de telles cernes sous les yeux que j'ai mis des lunettes de soleil. 11h20. Changement à étoile. Ligne RER A, direction Saint-Germain. Les gens me regardent comme si j'étais folle. J'étais tellement ensuquée ce matin que je me suis habillée avec ce que j'avais sous la main. Et ce que j'avais sous la main, c'était ce que j'avais mis hier soir pour sortir avec Kevin. Bustier tueur de chez Clackerback, adorable short mini en poulaine gris taupe de Jean-Charles de Castelbajac, sa copine Sabine m'a eu un prix, collant de soie Agnès B et escarpins Gucci empruntés à Laura avant qu'elle ne les déforme. Il fait très doux, transpire abominablement. 11h25. Bon, oui, je ne savais pas que Le Chevalier à la Rose était un opéra de Strauss. Et alors ? J'ai bien aimé. La salle était très élégante et avec mon short de soirée moule-moule, j'ai fait un tabac. Même le silence à la fin était de Strauss, a paraphrasé Kevin en se tournant vers moi à la sortie du théâtre. Il semblait en extase et un signal s'est allumé dans ma tête. Attention, culture ! Bien que plutôt cultivé moi-même, je regarde fidèlement Zone Interdite sur M6. Je déteste ces types qui vous parlent de Kokoschka ou de Nips à tout bout de champ. Des marques depuis longtemps passées de mode, je suppose. Le dernier que j'ai connu me donnait toujours le choix entre filer à la fondation d'Aper. Ils exposent des prépuces sacrées en provenance des hautes vallées du Bénin. ou admirer les fenêtres à œilletons à l'Institut du monde arabe, alors que la seule chose dont j'avais vraiment envie était de rentrer vite fait chez lui pour une féroce partie de dîme en l'air. Mais je me suis fait peur pour rien. On a dîné au pub Matignon en parlant de choses réellement intéressantes. Comment ces femmes étaient parties en embarquant les mômes, par exemple, ou la façon dont le traitaient les petites filles au cours élémentaire parce qu'il était déjà petit et laid. Il m'a semblé d'une façon générale qu'il avait une dent contre le sexe faible, bien qu'il m'ait toujours traité avec une très grande courtoisie. Un peu comme ces grands coléreux qui déplacent un bibelot avec des précautions exagérées. Il était près de minuit et j'attendais toujours qu'il me mette la main au panier quand il achetait un coup d'œil à sa montre. Et si nous allions boire un verre chez Brie et Craquement ? C'est là que la situation a commencé à m'échapper. 11h45. Terminus de la ligne RERA. J'aurais pu demander à Eddie ou à Janice de venir me chercher, mais je ne veux rien leur devoir. Et oublier de reprendre Pasqua chez la voisine. À 6 € l'heure, ce foutu chien va bientôt me coûter aussi cher qu'un gigolo brésilien. 11h46. Oh, allez, oubliez aussi d'acheter le sacro-saint gâteau du dimanche. Remédie à cette fâcheuse défaillance dans la première boulangerie venue, mais ils n'ont plus que d'infâmes choses industrielles dégoulinantes de crème. Tant pis. 11h47. Brie et Craquement. Vous parlez d'un nom. Je n'avais jamais entendu parler de cette boîte. Parole d'honneur. Quand Kevin a garé sa 6e Mercedes devant la porte gothique dégoulinante de sang séché, à moins que ce ne soit du goudron, j'ai trouvé ça original, sans plus. Deux couples parlementaient devant le guichet ouvert et j'ai vu que les deux femmes ouvraient leur manteau en grand pour montrer ce qu'elles portaient. Le type derrière la porte leur a ouvert et une bande de lumière écarlate s'est allongée sur le trottoir. « Chouette, une vraie boîte gothique !» ai-je dit à Kevin. « J'ai toujours eu envie de voir des types déguisés en vampires et des nanas avec des lèvres noires. » Il a tourné vers moi un visage étrangement congestionné, comme quand « Oh, enfin vous savez bien quoi !» Il a dit « Je crois qu'on va bien s'amuser, Elsa. » « On est vraiment sur la même longueur d'onde, j'ai pensé. » Midi. N'arrive pas à croire que mes parents ont choisi cette ville de Bourges pour y finir leur jour. Saint-Germain en laine est peuplé que de Buster Keaton en veste de velours et de mémères en raglan et collier de perles. Et ses trottoirs, couverts de 4x4 flambants neufs comme ceux qu'on voit sur les routes d'Afghanistan à la télé. Est-ce que je peux avoir l'air conne, moi, avec mon gâteau acheté chez Grille-Pain ? Midi 40. Deux bornes à pied depuis la gare RER. Quand ils se sont installés là en communauté, au début des années 70, mes parents et leurs potes travaillaient tous pour la radio ou dans la production de disques. Ils faisaient la nouba avec Marianne Faithfull et Rod Stewart et couvraient les festivals de pop music pour actuel et rock and folk. La mort de John Lennon leur a filé un sacré coup. Depuis, ils refusent tout net de s'aventurer dans le 21e siècle. Pour moi, ils en sont restés au carrefour d'Abbey Road et de MacArthur Park. Le milieu des années 70, disons. Hier, 23h. Kevin a glissé un billet au Cerbère pour qu'il nous laisse passer et on a descendu un escalier très raide couvert d'un épais tapis rouge. Question ambiance, c'était très réussi. Des torchères fumaient sur les murs de pierre couverts de panoplies étranges. On aurait dit le sous-sol du BHV rayon perceuse. Et des bruits caverneux montaient des profondeurs, genre quelqu'un en train de se noyer. Le vestiaire était sur la droite. Une fille déguisée en femme battue nous a pris nos manteaux, et c'est alors que le doux, l'attentif, le cultivé Kevin a suggéré que, peut-être, j'étais trop chaudement vêtue et que si je laissais aussi ma robe, je me sentirais plus à l'aise. Sur le moment, j'ai cru qu'il plaisantait. J'allais répliquer quelque chose de particulièrement humoristique quand un couple a poussé une portière de cuir sur notre gauche. J'ai compris alors où j'étais. 13h. Leur baraque s'appelle la Sucette à l'anis car ce sont tous des adorateurs de Gainsbourg. C'est une grosse villa comme on en trouve à Deauville avec des tuiles vernissées et plein de balcons en bois pour voir la mer. Elle fait bien 200 mètres carrés au sol sur 3 niveaux et elle est entourée d'un jardin assez grand et très négligé. Pour se l'offrir, il y a 15 ans, Janice et Eddie se sont constitués en SCI avec leurs potes, les Bee Gees et les Rolling Stones. Oh, j'imagine que le type à qui ils l'ont acheté s'appelait Elton John. Elle doit valoir bonbon à l'heure qu'il est. Denis prétend qu'elle tape autour du million, mais je ne sais jamais s'il parle de francs ou d'euros. Il faudrait qu'ils meurent tous pour que je puisse récupérer ma part et repasser en positif à la banque. Hier soir. Oui, bon, autant l'avouer tout de suite, je n'ai rien dit quand j'ai vu cette fille entièrement nue avec un collier de chien autour du cou et qui marchait à quatre pattes. Elle était jeune, moins de 30 ans, et le type aurait pu être son père, mais il ne l'était visiblement pas. Le plus étonnant, c'est qu'elle semblait très contente d'être là. Elle se dandinait sur les genoux et les mains et nous jetait des regards provoquants dessous ses longs cheveux. J'ai regardé Kevin. Il semblait hypnotisé, exactement comme par Strauss, un peu plus tôt. J'avais l'air malin, moi, avec mon short soi-disant mini. L'homme a demandé si on pouvait donner un peu d'eau à sa compagne avant qu'il sorte, et la fille du vestiaire a posé une écuelle par terre. La fille a bu dedans, exactement comme si elle était une femelle setter ou un lévrier portugais. Et c'était fascinant. Enfin, je veux dire, c'était répugnant. Surtout que ses cheveux trempaient dans l'eau. En même temps, elle n'était pas obligée de le faire, n'est-ce pas? Alors pourquoi le faisait-elle? Vous voulez la promener? A proposé le type à Kevin. Très aimablement, je dois dire. On a déjà remonté toute l'avenue Henri Martin comme ça. Elle pissera au pied des réverbères si vous le lui demandez. Kevin a dit qu'on venait d'arriver, puis il s'est tourné vers moi avec la tête qu'il avait tout à l'heure en parlant des femmes de sa vie. « Voyez plutôt, j'ai ce qu'il me faut. » J'aurais dû partir en courant, je suppose. En tout cas, c'est ce qu'auraient fait toutes ces femmes que j'admire parce qu'elles filent une frousse du diable aux hommes. Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Amélie Mauresmo. Toujours est-il que je ne l'ai pas fait. « Ma vieille, me suis-je seulement dit, il va falloir être à la hauteur. » 13h01. En passant, raye la carrosserie de l'Audi 2000 de ma sœur tout du long. Dirait que mon stérilet dépassait. Le buggy jaune vif des Bee Gees est sur cale devant le perron. Il cherche un moteur de corvette. Et un peu plus loin, j'aperçois la coccinelle vert pomme des Stones, plus deux autres voitures que je ne connais pas. Au moment de pousser la porte, croise mon reflet dans la vitre. On dirait Brigitte Fontaine, lookée façon Nina Hagen, avec ce gâteau à la con qui se balance au bout de la ficelle. 13h05. Suis accueillie par un boucan de tous les diables. Il y a un monde fou et Polk Saladani passe en boucle à fond la caisse. Bon sang, je n'étais même pas née qu'ils écoutaient déjà ça. Je croyais être la seule invitée, mais me rappelle alors que c'est l'anniversaire d'Eddie. Oh, je l'avais totalement oublié. Les deux Bee Gees sont affalés dans l'entrée. Totalement stone, avec des yeux rouges comme ceux d'un lapin et des moustaches de coq sous le nez. « Ah, oh, Elsa » bredouille-t-il de concert avant de retomber dans le coltard. On les appelle comme ça parce qu'ils sont fans du groupe. Leur vrai prénom, c'est Claude et Brigitte, mais ils préfèrent Donovan et Penny. Je n'ai jamais pu saquer leurs enfants. Trois garçons faits sur le tard qui allaient à l'école en planche à voile et se foutaient de moi en m'appelant planche à pain. Mais depuis, ces crétins ont tous décroché un MBA de commerce international et chaque fois qu'on se revoit, ils essaient de me sauter. Entre dans la salle à manger. Les Rolling Stones m'aperçoivent et me sautent au cou. Ils s'appellent Mercier, Dominique et Catherine Mercier. Ils ont 60 balais bien sonnés et des cheveux teints en noir corbeau comme la famille Adams. C'étaient des producteurs connus quand Bruno Cocatrix était encore sur Terre. Connus et pas très nets. Et il arrive encore que des orchestres de heavy metal s'arrêtent chez eux pour leur casser la gueule. Leurs enfants, un garçon, une fille, sont un peu plus âgés que moi et se sont expatriés loin, en Chine, pour ne plus entendre Lady Jane et I can't get no satisfaction à longueur de journée. Ça ne me gêne pas qu'ils vivent tous ensemble et que tout le monde couche avec tout le monde comme au temps du Power Flower. Ce qui me fait un peu chier, c'est que tous ces gens-là, des vieux, paraissent si équilibrés. 13h10. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» me lance Janice, émergeant de la cuisine d'où parvient une forte odeur de poulet brûlé. Elle est engoncée dans une robe de gitane et porte les mêmes bottes que Brigitte Bardot quand elle n'avait peur de personne en Harley Davidson. « On a été charrette toute la semaine, j'ai pas dû dormir 10 heures en tout, » dis-je pour expliquer les cernes. Mon père émerge de la cave les bras chargés de bouteilles. Il s'est parfumé à cannabis de chez Cannabis et je l'embrasse. « Tu as quel âge ? » « 52 ans !» dit-il en se rengorgeant. « Tu sais que je vais en avoir 30, moi ?»«
Non !»
Il a cru bon d'enfiler son costume de concert bleu lilas, une chemise à jabot style Alexandrie Alexandra et les bottines orthopédiques qu'il a rachetées à Dick Rivers.
« Et tu sais quoi ? J'ai croisé Eric Chardin au marché. Il va passer au café nous raconter ses blagues. »«
Ok, je la boucle. Ce sont mes parents. Je leur dois la vie et la honte qui va avec. » 13h18. Eric Chardin le marrant. Ben voyons. Hier vers minuit. Le pire, je crois, c'est quand la fille du vestiaire a sorti de derrière le comptoir une espèce de harnais en cuir. Rien que des lanières fines comme des fettuccini, attachées les unes aux autres par des manilles, et m'a poussée dans la salle d'à côté, qui était un bar en fait, avec une bonne dizaine de clients accoudés au zinc. Ils étaient tous en noir. On se serait cru à un séminaire de designers en putrage.
« Vite, mets-toi en tenue avant que ton maître ne se fâche !»
m'a soufflé la fille en me tendant le harnais. J'avais à peine retiré mon bustier qu'un petit Bouddha enfermé dans une combinaison de plongée est apparu et a insisté pour que je retire aussi ma lingerie. Une ravissante parure saumon-framboise de chez Boléro. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre parce qu'avec son masque à gaz de l'armée française, on ne comprenait pas bien ce qu'il disait. Kevin avait disparu. Le plongeur sous-marin m'a aidé à me hisser sur un tabouret, puis il m'a expliqué très précisément comment poser mes mains sur l'assise et caler mes talons dans les entretoises pour bien m'exhiber. Ça donnait à peu près ça. Une fois disposée là, toute nue ou presque, avec juste mes hauts talons devant une demi-douzaine de croque-morts, je me suis dit que si l'équipe de tournage de Paris Première déboulait juste à ce moment-là, j'allais être mal. 13h10. Film refaire une beauté dans la salle de bain au premier étage. Ma chambre est juste à droite. J'ai vécu là 15 ans et mes parents en ont fait un studio d'enregistrement. Les murs sont tapissés de boîtes à œufs. Il y a de vieux tapis afghans par terre et des guitares acoustiques posées un peu partout. Dans un coin, un couple à cheveux gris que je ne connais pas fait l'amour sur mon lit de jeune fille. 13h12. Assise sur la lunette des toilettes, je pleure un bon coup sur le paradis perdu. Ce que je suis conne tout de même. Car enfin quoi, c'était bien plus dur cette nuit. Cette nuit. À moi aussi, on met un collier de chien. Serais-je dans une annexe de la SPA ? Les clients du bar sont descendus de leur tabouret et m'entourent d'un cercle silencieux. Là-dessus, Kevin réapparaît. Il est flanqué d'un grand balèze chauve, sanglé dans une invraisemblable combinaison en peau de rhinocéros, dont l'empiècement, judicieusement disposé, ne laisse rien ignorer de ses avantages virils. Moi, je n'ai jamais cru aux aphrodisiaques à base de poudre de cornes de rhino, mais là, je commence à changer d'avis. Comprends que c'est le patron de l'établissement parce que tout le monde a reculé. Kevin lui parle à l'oreille et c'est quelque chose d'incroyablement excitant parce que je ne sais pas ce qu'il lui dit mais je peux le deviner. À tous les coups, ce qu'on va me faire est pire que ce que je peux imaginer. Le type s'approche de moi, il me prend par les épaules et me fait me pencher. À ce moment-là, je me dis que si je ne déteste pas franchement tout ce cirque, je vais adorer. 13h20, redescends et j'ai un flash. Tous les invités sont à poil et me regardent comme si j'étais l'attraction du jour. Puis l'image s'efface et je les vois tous qui discutent et rigolent dans leurs fringues démodées, pantalons pas de def, gilets de mouton et corsage à fleurs. Bob Dylan braille « Hey, Mr. Tambourine Man !» Hugo Frey, ce n'est tout de même pas lui, fait passer les verres à la ronde. Me lance dans la mêlée et échange des mots aimables ici et là avec les Schausberg, Yvon et sa femme Marcia, des cocos purs et durs d'avant le rideau de fer, les Mouscoury, Pimpon et Bonnette, qui, eux, ont viré Front National, plus quelques autres que je connais moins bien, mais qui ressemblent tous à ZZ Top ou à Abba, période Mondovision. Apparemment, tous ces gens se souviennent de moi et se désolent de ce que je suis devenue. Une métrosexuelle boboïte branchée mondialisation, pensent-ils. Et encore, ils ne savent pas tout. Toujours aussi belle, la gamine ! Me glisse pourtant Pimpon en me tapotant les fesses. La dernière fois qu'on t'a vu, tu étais quelque chose comme « escort girl, non ?» Il est lourd. C'est un ancien CRS rencontré par la bande sur les barricades de mai 68. Son taux de testostérone en chute libre lui souffle toujours que je suis une bonne affaire. « Et pourquoi ne serait-elle pas pute de luxe ?» intervient sa femme avec aigreur. C'est une ancienne prof en langue O qui a longtemps milité pour l'émancipation du clitoris avant de virer à alien. Mais c'est toujours mieux que de travailler dans la pub. Et puis, bien foutue comme elle est, elle ne va tout de même pas faire le bonheur que d'un seul homme. « Oh, bonnette !» lance Janice qui passe en brandissant un superbe cake au hashish. « Elle couche déjà bien assez à droite et à gauche. Tu ne vas pas l'encourager tout de même. »«
Que Dieu te bénisse! Tu es toujours avec ce percussionniste camerounais ou thaïlandais, je sais plus, celui qui te sautait sur ses bongos !»
hurle Penny pour couvrir la voix de Barry White. Quand elle se lâche comme ça, on se demande toujours si elle est alzheimérienne ou si elle est parcourue par un de ces douloureux élans mystiques contre lesquels elle prend du doliprane. Et Janice, de la cuisine, laisse parler son troisième œil.
« Plus besoin de bongo, Penny. Je suis sûre qu'elle a trouvé mieux depuis. »
Cette nuit, je n'aurais jamais pensé faire ça dans un bar. Je veux dire, d'abord, prendre les pauses que me soufflent des types que je n'ai jamais vus de ma vie et ensuite, laisser leurs mains et leurs langues fouiller mon intimité comme si nous étions amis d'enfance. Tout ça sur un tabouret et en pleine lumière, s'il vous plaît. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'accrocher des deux mains au rebord du comptoir et me cambrer comme Yvette Chauviré dans le lac des cygnes. Les clients se succèdent en un balai bien réglé et profitent de ce que je leur offre. Leurs mains et leurs langues ne leur suffisent plus. Un premier se place entre mes jambes, se déboutonne et s'introduit le temps d'une visite rapide, pas plus. Je me dis que c'est comme à Pain et Fantaisie, sauf que l'homme a un loup de satin noir et qu'il me pince les seins de toutes ses forces en allant et venant dans moi. Il ne reste pas longtemps, mais comme je me suis laissé faire de bonne grâce, un autre se présente aussitôt. Celui-là pousse plus loin, jusqu'à me faire craquer et crier. Puis en vient un autre et un quatrième. Quelqu'un tire sur ma laisse par derrière, de sorte que j'arrête de les compter, et c'est aussi bien ainsi. Ça dure un bon bout de temps parce qu'il y a de plus en plus de monde autour de nous. D'autres hommes, d'où sortent-ils? Mais aussi quelques femmes qui toutes pourraient jouer dans Catwoman. Elles sont corsetées, en lingerie noire, sanglées de cuir et de métal, en combinaison de vinyle ou entièrement nues, et semblent prendre autant de plaisir que les hommes à me voir me tordre sous les assauts. Certaines ont l'âge d'être ma mère. À d'autres, on donnerait le bon Dieu sans confession. Je les ai croisées dans la rue, au travail, allant chercher leurs gosses à l'école ou faisant leurs courses à l'hypermarché. C'est comme si je les avais toujours connues. Et pourtant, elles ont l'air de venir de très loin. Comme moi. Un masque ou un déguisement leur a permis de devenir ce qu'elles sont vraiment. Des asociales assoiffées de luxure. Il arrive que je croise leurs regards. Et j'y lis cet émerveillement de petite fille enfin coincée par le grand méchant loup. Crucifiée comme une grenouille de laboratoire, le sky du tabouret couinant sous mes fesses et le rebord du bar s'imprimant dans mon dos à chaque poussée, en vérité, je me sens moi aussi chez moi, dans mon rôle. Ça me plaît, bon Dieu! Oh oui, ça me plaît! Dans l'ombre, Kevin et le rhinocéros discutent le bout de gras et derrière eux, l'homme caoutchouc s'affaire à préparer je ne sais quoi. Dans un éclair de lucidité, je me demande pourquoi je consens à tout ça si facilement, et je me dis que c'est sans doute moins dû au champagne qu'on m'a fait boire qu'à cette curiosité intellectuelle qui, toujours, me fait me ruer sur les derniers endroits à la mode. Voilà, c'était donc un extrait du journal d'Elsa Linux. C'est publié aux éditions La Musardine. Et croyez-moi, la journée du 19 septembre n'est pas terminée, loin de là. Et la soirée n'est pas finie non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Elsa Linux dans ce club totalement BDSM, bris et chuchotement? On pourrait dire en quelques mots qu'après, elle s'est retrouvée, si vous voulez, un petit peu marquée. Mais qu'elle a kiffé, vraiment. C'est une des scènes, je trouve, les plus hautes du bouquin que je vous ai lu. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-là, et voilà. Voilà, voilà. Donc, vous avez fait la connaissance d'Elsa Linux, de ses parents un petit peu déjantés, Janice et Eddie, de leurs potes. Bref, tout ce petit beau monde évolue ensemble
dans un bouquin parodique, hein, c'est vraiment une parodie du journal de Bridget Jones, qui croque un petit peu le monde de la pub, du bobosianisme parisien ou du parisianisme bobo, comme vous voulez, où tout le monde fait semblant, tout le monde est un petit peu creux et tout le monde a ses vices cachés. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Alors, si vous voulez vous offrir ce livre, rendez-vous sur mon site lec.charlie-liveshow.com. Là, vous trouverez les liens pour aller vous offrir directement le livre lec.charlie-liveshow.com. Et puis, c'est là aussi que vous pouvez retrouver tous mes précédents podcasts de littérature érotique. Et si vous aimez vous faire raconter des histoires, si vous aimez la manière que j'ai de raconter des histoires, je fais aussi un podcast, alors là ce n'est pas de la littérature érotique, c'est un podcast, une lecture au hasard, ça peut parler d'énergétique comme ça peut être un roman policier, un extrait d'une pièce de théâtre, bref, tout est bon, j'adore lire. Ce podcast non érotique s'appelle « La passerelle, le zen ». N'hésitez pas à venir écouter mes autres podcasts, La Passerelle, le Zen, à vous de jouer. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Ciao, ciao, ciao.